Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Jennifer Hartsmith.
Comment je me présente ? Bon, comme quelqu'un d'un peu perdu, mais qui a des bonnes pistes sur l'avenir. Franchement, le tronc commun, ça reste la pâtisserie, mais ça s'ouvre vers aussi plein d'autres champs. Donc, je suis pâtissière naturopathe. Voilà, jusqu'à ce que ça évolue vers peut-être naturopathe pâtissière, je sais pas. Ça fait aussi partie des discussions que j'ai souvent en ce moment, c'est comment tu fais un produit ou comment tu fais une cuisine ou une pâtisserie qui soit en raccord avec ce que tu peux raconter, qui soit vraiment pas délétère pour la santé, qui amène du plaisir, qui amène de la gourmandise, que ce soit pas juste une espèce de réflexion intellectuelle parachuter comme ça, que ce soit vraiment juste quoi aussi quoi.
Plus connue sous le nom de Two Keys, Jennifer Hartsmith s'est fait un nom en dealant des cookies typographiés depuis son atelier du quartier Gambetta à Paris. Et puis Two Keys a évolué avec elle, devenant projet protéiforme au-delà des biscuits fleuris aussi beaux que bons. Jennifer est devenue naturopathe et a creusé le sillon, pas toujours évident, d'une pâtisserie à la fois naturelle et consciente, qui remet le terroir et les saisons au cœur de la pratique. Elle écrit aussi des livres, fait de l'accompagnement, puis a lancé plus récemment des cours en ligne. Et qui sait jusqu'où sa reconversion l'emmènera. Avec Jennifer, nous avons parlé de ne pas rentrer dans le moule, de standardisation du goût et de discipline. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Jennifer.
Salut Julie.
Two Keys, ton entreprise, ton blaze, j'ai envie de dire, est née avec cette idée de cookies personnalisés.
Voilà, mon nom qui me colle à la peau. Comme je dis souvent, c'est vraiment un nom que j'avais créé comme ça pour rigoler ou parce qu'il fallait mettre un nom assez vite sur Instagram. Mais maintenant, c'est pas que je l'assume plus, mais voilà. C'est pas... Enfin, voilà, c'est pas non plus... Je peux pas forcément expliquer pourquoi ce nom ou comment ou tout ça, quoi.
Mais c'était vraiment les... T'as commencé
ouais,
avec les cookies.
Typo et cookies, parce que c'était ce que je montrais en première intention, ouais, carrément.
T'as d'abord étudié le graphisme et la typographie à l'école Boulle avant de tenter la pâtisserie.
Ouais.
Et je crois que tu t'es beaucoup cherché dans ton parcours
ouais.
professionnel.
Ouais. Alors c'est marrant parce que à la fois c'est ça, c'est beaucoup cherché et en même temps,
tout prend sens aujourd'hui.
Pardon ? Ouais,
tout,
voilà,
tout
c'est ça. En fait, c'est-à-dire que il n'y avait pas de, comme je le dis souvent, il n'y avait pas une stratégie de base. Je ne me suis pas dit, je vais faire graphiste, puis pâtissière, puis naturopathie. Mais c'est vrai que, à chaque fois que j'arrivais dans un domaine, il y avait des problématiques, que ce soit par rapport au métier ou par rapport à moi, comment je le vivais. Et que du coup, il fallait ou partir. faire autre chose, ou alors compléter, ce qui était le cas avec la pâtisserie et la naturopathie, en sachant qu'il n'y avait pas, à la base, c'était pas fait pour se rencontrer, ces deux disciplines tellement, tellement à l'opposé, en fait, pour le coup.
Mais c'est un chemin qui, un long cheminement, donc ouais, qui t'a exactement. Amené, en fait, à chaque oui. étape, à la suivante.
Tout à fait.
Enfin, à réfléchir à la suivante.
Ouais, exactement. Et puis que finalement, après, il y a du sens. Il y a pas des métiers qui s'annulent. Il y a plutôt des. Enfin,
ça
en gros,
se
voilà, ça se complète et ça crée une façon de faire à moi qui est liée au parcours, quoi. Voilà. Mais après, après vraiment, c'est ça. C'est le fait d'avoir été nourri par plein de disciplines différentes. Mais après, il y a quand même toujours un truc qui se retrouve, c'est-à-dire une façon de travailler. Et par exemple, la formation à l'école Boulle, qui a été vraiment ma première formation, m'a déjà construit un premier réseau de travail, et puis aussi une façon de travailler aussi. Une façon d'avoir un projet créatif, et de le penser, de le faire, de le mener au bout. Et finalement, cette façon de travailler-là, elle a été... transposable sur la pâtisserie, sur la naturopathie, sur tous les projets. En fait, c'est une façon d'aborder un projet créatif au sens large, quoi.
Et t'aimais déjà faire de la pâtisserie quand t'étais enfant, t'y avais pensé?
Moi, je pense comme peut-être comme beaucoup d'enfants, j'aimais bien avoir les mains dans la matière. Après, j'ai pas forcément pensé en faire un métier très vite. C'est venu vraiment après. J'ai rencontré mon compagnon à l'époque qui était vraiment dans la restauration. C'était pas forcément des métiers quand j'étais plus jeune qui étaient très valorisés aussi. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Et après, par contre, très vite, je me suis rendu compte que c'était un métier, que ce soit la restauration au sens large ou les métiers de bouche, qui me rendaient quand même hyper heureuse, quoi. Et assez jeune, moi, j'ai travaillé toujours à côté de mes études dans ces métiers-là.
C'est ça qui
serveuse, commis, voilà. En Australie, on a cette culture-là aussi du petit job après l'école, en fait.
Et t'admirais, il y a des chefs que t'admirais, des pâtissiers, avant de commencer, non?
Franchement, non, j'ai pas trop, j'avoue.
T'étais pas du genre à aller faire la queue pour goûter un pain au chocolat?
Non, pas trop. J'ai pas cette culture de culte de la personne, quoi, dans aucun domaine, je crois. C'est plutôt le culte de la discipline, quoi, de la créativité, de ce qui se fait. Ouais, c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais ouais, j'ai pas de mentor ou de voilà.
T'as assez été choquée/déçu parce que t'as découvert dans tes différents stages ou dans tes différentes expériences?
Non, parce que vraiment, tu vois, quand je dis que j'ai pas de mentor, c'est vrai que j'aime pas, comme je te dis, ce côté culte de la personne, mais par contre, j'ai fait que des rencontres hyper nourrissantes pour le coup dans le parcours, et en fait c'est pas un hasard, les gens chez qui je suis allée faire des stages,
tu les as choisis?
Ouais. en fait bizarrement il y avait déjà une sensibilité produits, saison, il y avait déjà une façon, ils utilisent déjà pas forcément de colorants, il y avait déjà une sensibilité proche de la cuisine, en fait.
Et toi, tu l'avais déjà aussi en toi, cette sensibilité, parce que tu venais pas du monde de la pâtisserie, mais t'avais envie d'insuffler, t'avais envie, c'est né au fur et à mesure.
Mais en fait, je pense que c'était plutôt une espèce de constat personnel de se dire, c'est bizarre, quand je finis mes journées en stage, je me sens un peu vide. Alors pas parce que j'ai travaillé physiquement et que j'ai donné, mais vraiment parce que je sens que ça m'a pas fait du bien. Les matières que j'ai touchées m'ont pas fait du bien. Je me disais aussi, mais si je mange tel produit tous les jours, ça peut pas bien aller. C'est plutôt une histoire d'intuition, de ressenti personnel, et après de partir de ce constat-là pour se dire, est-ce que ce serait pas intéressant de faire autrement, notamment sur la présence des matières raffinées, sur la présence moi il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu choquée, c'était le fait de travailler à partir de fruits déjà transformés, beaucoup des purées de fruits, d'être dans une volonté de standardisation du goût aussi.
Ah ouais,
et c'est encore quelque chose qu'on peut ériger comme une espèce de modèle aussi parfois dans le référentiel, de dire ce qui est génial chez telle personne, tel artisan, c'est que le goût est toujours le même, mais en fait
les produits sont jamais les mêmes.
Normalement les produits sont jamais les mêmes, et il y a une évolution, et donc il y avait des choses qui me parlaient pas, en fait, et je pense que c'était dû au fait que j'avais une idée reçue Moi, je pensais que les pâtissiers recevaient voilà, des cagettes de fruits tous les, tu vois, tous les mardis matins, et qu'en fait, la semaine, ils passaient leur temps à transformer en matière première ou à travailler le produit. Et du coup, il y a eu une forme de désillusion, ouais, un petit peu, quoi, je pense, à ce niveau-là. Ouais.
Et t'as pas voulu travailler... Enfin, tu vois, comment t'es arrivé à monter ton propre modèle lancer une idée une pâtisserie de cookies personnalisés. Tu te dis c'est audacieux.
En fait, déjà aussi, il y avait quand je dis tout ça, c'est pas une critique, hein, par rapport à l'approvisionnement des matières premières. J'ai bien compris, hein, qu'il y avait aussi, voilà, quand on ouvre par exemple notamment le format de la boutique, en fait, tu comprends très vite pourquoi le système d'approvisionnement, il est fait comme ça. Il y a entre guillemets, voilà, il faut répondre à une certaine demande, et donc l'idée, c'était pas de taper sur les gens qui faisaient comme ça, c'était plutôt de comprendre que dans ce métier, il y avait un truc qui peut-être me gênait. Et donc très vite, je me suis dit, je vais pas ouvrir une boutique, déjà parce que j'avais pas non plus assez d'expérience, et puis parce que je me disais, là aujourd'hui, j'ai pas les clés pour proposer autre chose qui puisse être en accord avec ce que je pense et ce que la demande attend, quoi. Donc voilà. Donc comme il y avait cette dissonance, je me suis dit, je vais faire autrement. Et après, ce qui est génial, c'est que c'est les rencontres de la vie, les commandes, les gens qui voient peut-être que Instagram a été un bon réseau pour moi au début aussi, parce que ça m'a évité d'ouvrir une boutique. Ça m'a aidé, ça m'a évité de... Ça a été une vitrine. Donc,
digitale plutôt qu'une vitrine.
Exactement. Après, le risque de ça aussi, c'est qu'on peut être aussi déconnecté d'une certaine réalité de production, et que du coup, il fallait aussi... assez structuré quand même assez vite. C'est pour ça que j'ai pris après un labo ici.
Ouais. Tu as commencé chez toi ?
Ah ouais, moi j'ai commencé chez moi, les petits gâteaux dans ma cuisine. J'ai commencé comme ça, j'avais deux enfants. Et puis je pense que j'avais pas une fibre business aussi à la base. Donc tout ça, ça s'est appris au fur et à mesure. Donc voilà. Ouais. J'ai beaucoup tâtonné, ouais, c'est clair. Ouais.
Et le côté recherche sur les produits, il est vraiment venu petit à petit.
En fait, c'est vraiment parti du biais de la naturopathie, le sourcing des produits, parce que je me suis autorisée à faire une formation complémentaire parce que je sentais que j'en avais besoin, sans trop savoir ce que ça allait m'amener ou ce que j'allais en faire. Et c'est vrai que la naturopathie m'a sensibilisée à certains produits qui peuvent être vraiment bons pour la santé. Et je me suis dit que c'est vrai que la notion de bon pour la santé, elle était inexistante, vraiment, en tout cas dans le métier de la pâtisserie à l'époque. C'est en train d'arriver, je trouve, vraiment maintenant, et tant mieux, franchement, c'est trop bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de lien de cause à effet entre ce que tu mettais dans ta bouche, qui pouvait être certes beau et bon, et peut-être tout l'effet vraiment délétère sur la santé et tout. Et donc la naturopathie a vraiment ouvert un champ énorme. Et après, par contre, ce qui était chouette aussi, c'était que dans la famille de mon compagnon, il y a ils viennent d'un milieu agricole. Et donc après, on a beaucoup échangé sur les dissonances entre, par exemple, des ingrédients que j'avais appris comme étant nutritionnellement parfaits en naturopathie étaient quasiment tous importés. Aucun sourcing, entre guillemets, aucune traçabilité. Donc là, il y avait des soucis d'environnement. Et quand je me suis retrouvée à dire à, par exemple, mon beau-père, tu devrais prendre de l'huile de coco, lui qui n'est jamais parti d'Aveyron, lui qui a toujours mangé local, il y avait un truc qui coinçait, quoi.
Ça aussi, c'est une réflexion que tu as menée petit à petit, ouais.
Ça part de constatation. Je me suis retrouvée dans des dîners de famille à dire tu devrais prendre de la spiruline, tu devrais prendre de l'huile de coco, tu devrais pas mettre du sucre blanc mais du sucre de coco. Et ce qui était juste en soi, parce que c'est vraiment, on parle vraiment de produits qui sont meilleurs à la santé. Mais c'était pas logique. La coco ne pousse pas en France. Et finalement, eux, ils m'ont beaucoup fait avancer aussi sur ça. Il y a Gilles Cousin aussi, qui est du coup une amie journaliste qui est très sensible aussi à l'approvisionnement et que j'avais rencontré pendant que je faisais mes études de naturopathie. Et dans nos discussions, souvent il y avait ça aussi, tu vois, il y avait le côté ton produit c'est cool, mais il vient pas de France et tout. Donc ça m'a amené autre chose après. Voilà.
Ouais. Et t'as cherché comment t'as fait pour découvrir, parce que c'est un travail qui est assez récent quand même, la
redécouverte de toutes les farines.
Tu t'es mis en contact avec des producteurs locaux, français.
Les farines, très rapidement, on m'a proposé un livre, un premier livre avec Moulin des Moines, qui est une entreprise familiale qui justement a un gros panel de production de farine assez riche. Et ils m'ont proposé de faire un petit livre parce qu'ils partaient du constat qu'ils avaient une offre très riche, mais qu'on ne savait pas quoi en faire et qu'ils avaient beaucoup de mal à vendre, à diffuser. Et donc, je pense vraiment qu'à l'époque, je n'étais pas du tout la meilleure personne pour faire ça, mais ça a été une grande chance pour moi parce que ça m'a permis très vite d'être au contact des produits, de la diversité des produits. Et après, de se dire, mais attends, voilà, on parle de sans gluten, mais il y a tellement d'autres farines. Et voilà.
Oui, et qui ont un bienfait au-delà du sans gluten. C'est vrai que quand tu disais tout à l'heure,
il n'y avait pas
beaucoup de pâtisseries qui pratiquaient ce travail-là. C'était beaucoup axé sur sans gluten. Enfin, tu vois, le côté en plus un peu culpabilisant, je trouve, sans gluten, sans lactose ou... Tu vois, ça commençait,
oui.
Mais il n'y avait pas ce côté...
Je trouve que ce qui manque, c'est la pédagogie, c'est l'explication, en fait. Et très souvent, on a l'impression qu'il y a des mouvements qui sont un peu une espèce d'effet de mode, parce que ça émerge, et puis il y a un enthousiasme quand on parle de sans quelque chose ou d'un ingrédient, mais on n'explique pas pourquoi. Et donc, en fait, souvent, il nous manque un pan de l'histoire, quoi. Et bien sûr que le gluten, c'est pas génial sur la santé. Mais il faut expliquer aussi pourquoi. Ouais. Là, il y a tout un regain du pain fait maison, fermenté. Et c'est vrai que du coup, c'est pas la même histoire. Le gluten sur une base de panification, tout ça.
Ouais, alors que c'est des farines de blé. Et que, enfin, si c'est du bon blé, des belles farines
anciennes, semences paysannes.
Il n'y a pas autant de gluten que dans des farines.
Ouais, en fait, souvent on a tendance à s'engouffrer dans un ingrédient, alors qu'en fait, il peut y avoir autour du même ingrédient une vraie diversité. Il peut y avoir vraiment une richesse. Enfin, c'est le blé à lui tout seul. Il y a une richesse aussi. Maintenant, voilà, quand on parlait des farines, c'est le cas aussi. Je sais pas, farine d'amarante, des farines de plantes. Il y a la farine aussi du sarrasin, qui pourtant on trouve quand même pas mal dans notre farine de tech française, on va dire, mais il y a la farine de riz qui est chouette, et il y a tout un panel hyper riche, en fait, finalement, qui serait dommage de ne pas utiliser, quoi, en fait.
Bon, au niveau du goût aussi.
Ouais, carrément, ouais. Ça amène des typicités différentes, ça amène des arômes. Après, c'est vrai qu'il y a toujours aussi, ça rencontre très très vite toutes ces questions-là, et rencontre très très vite des vraies questions de réalité économique aussi. Parce que trouver un produit qui correspond, c'est trouver un produit qui, par exemple, techniquement est ok, gustativement est ok, et économiquement aussi sera ok. Et ça, c'est pas simple non plus. Et ça, c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu ouvrir de boutique très vite, parce que ça allait pas coller, en fait. Ça n'avait pas collé dans la réalité économique à l'époque. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui se positionnent, par contre, qui font des choix de travailler avec un produit, deux produits, gros sourcing, mais du coup, une réalité aussi de prix de vente qui est, qui est autre.
Et petit à petit, tout ce travail, finalement, t'a mené à la pâtisserie consciente et naturelle, enfin, une pâtisserie consciente et naturelle que t'as développée en allant plus loin ce que je disais, peut-être le sans gluten ou les anti... c'est vrai que c'était très anti-allergie au départ.
Ouais.
Et maintenant, c'est plus... pro bénéfice, enfin tous les bénéfices qu'il peut y avoir derrière.
Et après, j'avais de la chance parce que comme moi j'avais plus un modèle économique de labo, c'était plus facile aussi pour moi parce que le fait de travailler dans l'événementiel, d'avoir des demandes très précises aussi, des budgets qui n'étaient pas les mêmes pour explorer toutes ces questions. Donc voilà, moi je me suis créé un luxe aussi de pouvoir réfléchir à tout ça. Mais c'est pour ça que je disais que dans une réalité de boutique, ce serait différent. Le discours serait pas le même, je pense, aussi.
Et donc, la pâtisserie naturelle et consciente, explique-nous ce que c'est.
En fait, sincèrement, c'est toujours en mutation, hein, aussi, cette histoire. Parce que,
c'est ça qui est bien.
Ouais, c'est ça qui est cool. Au début, je pense que l'idée, c'était on enlève beaucoup de choses délétères comme les colorants, la gélatine, beaucoup de, je sais pas, de noms d'ingrédients qu'on trouve dans des mélanges déjà tout faits qui n'ont rien à faire là. Il y a eu toute une période aussi, moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, où on utilisait énormément comment il s'appelle déjà, c'était une poudre colorant blanche, le dioxyde de titane, je crois, qui est aujourd'hui interdit.
C'est fou.
Qui rendait vraiment les préparations hyper blanches, hyper belles, pour se rendre compte qu'en fait c'est une nanoparticule où on n'a aucun recul dessus. Et donc, à l'époque, il y a encore 2-3 ans, je t'aurais dit, voilà, la pâtisserie naturelle, c'est déjà enlever ça. Maintenant, pour moi, la pâtisserie naturelle, c'est un sourcing beaucoup plus complet des produits, c'est-à-dire partir de farine déjà le moins transformée possible, de produits le moins transformés possible, accepter de ne pas être sur des ingrédients qui sont tout blancs, tout raffinés. Donc, on évite les sucres blancs, on évite les farines ultra blanches, on remet une notion un peu de terroir aussi dans les matières premières. Et la saison, et après pour aller encore plus loin, les gens qui font les produits, qui est quand même un peu la base aussi, les producteurs, donc voilà.
Une révolution qui a déjà eu lieu en cuisine et qui,
qui commence
en pâtisserie, comme tu disais.
Ça fait un petit bout de temps, je pense qu'il y a des vrais agents de la transformation en pâtisserie, et des gens qui ont, comme je dis, vraiment une boutique, donc qui sont certainement dans l'expérimentation d'avoir des produits classiques qui marchent, et en même temps, des produits peut-être un petit peu plus audacieux, qui prennent plus de temps aussi à rentrer, je pense. Moi, j'ai eu le champ libre d'exploration, donc c'est différent. Mais c'est vrai que dans l'approche et la sensibilité, je me sens plus proche de certains cuisiniers que du milieu de la pâtisserie. Ouais.
Et Tookies a évolué avec tes réflexions, donc des gâteaux, t'es partie des biscuits et petit à petit t'as développé ton offre autour de ça.
Bah moi, je m'étais dit que c'était quand même dommage de faire un CAP de pâtisserie pour faire que des sablés fleuris, même si c'était mignon et tout. Et puis je suis arrivée à un stade aussi où je les avais trop vus, quoi, aussi, hein, ces petits sablés, j'en pouvais plus. Donc j'étais contente aussi d'être challengée un peu plus aussi techniquement, d'étoffer l'offre, ouais, tout à fait. Mais comme je dis, toujours dans un cadre événementiel, dans un cadre de commandes, de demandes précises, donc voilà.
Donc avant Covid, tu faisais... Avant Covid, je faisais
60% d'événementiel. Il y avait toujours les petits sablés qui étaient vraiment le produit fixe qui revenait régulièrement et qui me permettait aussi d'assurer... une réalité financière aussi. Et puis après, j'avais tout plein de demandes très particulières, assez créatives, que ce soit pour des champs d'exploration sur des saveurs avec le domaine de la parfumerie ou des choses comme ça. Un petit peu d'accompagnement aussi parfois, en consulting sur des gens qui voulaient justement intégrer plus de naturopathie. Donc voilà. Ouais.
Que du sucré ou du salé aussi?
Le salé aussi, c'est vrai que dans la partie événementielle, je faisais aussi du salé, mais je l'ai jamais trop mis en avant. Mmh. Ouais, c'était pas trop quelque chose que je mettais en avant à l'époque. Mmh.
Et Covid est passé par là, et aujourd'hui, aujourd'hui, donc,
tout le pan événementiel est mort. Ouais. C'était un peu déprimant pendant un temps. Je me suis demandé comment j'allais rebondir. Ouais.
Tu continues les biscuits.
Les biscuits sont toujours là, hein, quand même.
Heureusement.
Voilà, tout ça. Non, je continue les biscuits. Après, un peu dans la détresse de pas savoir comment rebondir, je me suis dit, j'ai quand même des connaissances sur certaines choses. Au début, c'était un peu technique sur comment foncer une tarte, comment ci, comment ça. Et donc j'ai lancé des cours en ligne, le premier confinement toute seule, qui ont super bien marché, qui m'ont aidée aussi psychologiquement à être active, génial.
Et se retrouver à la maison avec deux enfants,
c'est ça, avec plein de questions sur comment évoluer, rebondir et tout ça.
Ce qui va se passer, comment la vie va être après.
Et en même temps j'ai adoré cette période, familialement parlant, c'était top aussi, de se retrouver, quoi, de faire le point aussi sur tout ce qui avait été fait et tout ça. Et après le deuxième confinement, j'ai refait des cours en ligne, mais je voulais pas le faire toute seule, donc je l'ai fait avec. Chaque fois, j'invitais un chef, une chef, à travailler sur des thématiques précises, comme voilà, comment on cuisine les agrumes, comment on fait des bouillons. Et donc, ça intégrait toujours la notion de goût, technique et santé. Et c'était super. C'était vraiment des super rencontres, des super échanges. Et là, maintenant, je suis plutôt sur développement d'une gamme d'épiceries. Parce que je travaille avec des gens qui se retrouvent avec plein de matières premières et, qui d'habitude livrent au restaurant et ne peuvent pas les écouler. Et donc en fait, on réfléchit à comment faire cette gamme d'épicerie. Donc c'est encore un nouveau métier. Et puis comme les cours en ligne avaient vraiment très bien marché, je réfléchis aussi à des formations en ligne complémentaires qui apportent des outils naturopathiques et de santé à des cuisiniers ou même des gens à qui ça intéresse en fait et qui savent pas trop comment aborder la question et prise en charge du coup CPF, organisme de formation.
Ah oui, des vraies formations,
ouais, des vrais modules
enrichissants
quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et où je serais pareil pas non plus toute seule à le faire. Ouais. Parce que j'ai eu la chance, du coup, pendant mon parcours, de rencontrer aussi par exemple, j'ai rencontré une fille qui est vraiment experte en fermentation. Et elle sera parfaite aussi pour diffuser ce cours-là.
Ouais.
J'ai rencontré aussi une ethnobotaniste ou phytologiste très calée aussi sur la partie plantes sauvages, avec des vraies réflexions sur comment on s'intéresse à tout ça sans détruire aussi toute la flore endémique française. Donc il y a vraiment, je pense, des choses importantes, des paliers à créer. Et ça m'occupe beaucoup en ce moment aussi. Ouais.
Non, mais c'est finalement le Covid pousse à être créatif et à aller chercher dans ses propres ressources se réinventer.
Mais c'est vrai. Parfois, c'est pas forcément très confortable. Non. Et puis en même temps, parfois, ça amène aussi. Une façon de rebondir très créative, c'est hyper agréable aussi, quoi.
Ouais, mais finalement, t'avais pas non plus choisi, je pense, le chemin le plus confortable, mais tu vois, quand t'as monté ton business, un truc qui était pas un modèle qui existait déjà, je prends une boutique, même si toi, ça te semblait complètement évident. Pour l'extérieur, est-ce qu'il y a des gens qui, enfin, ton entourage s'est inquiété, qui t'ont tout de suite fait confiance?
Moi, j'ai la chance d'avoir une famille assez qui perche à la confiance, donc on m'a jamais trop embêtée.
Ouais.
C'est cool.
Mais tu vois, c'est pas un modèle très classique.
Ouais.
Les gens, des fois, ils
C'est le côté anglo-saxon, en fait.
Ouais.
C'est, voilà,
ça t'a aidé.
un père australien, une culture australienne, ou. Et ça, c'est aussi l'avantage à certains endroits de pas rentrer dans le moule et de s'en foutre totalement, quoi. C'est-à-dire, limite préférée, ne pas rentrer dans le moule parce que finalement, le moule, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas t'aller. Donc, ça peut paraître un peu arrogant, en fait. Mais pour moi, c'est plus une question d'être raccord avec... pour ma part, avec ce que je suis. Et puis après, et se remettre en question tout le temps aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a eu des moments où créativement c'était génial, mais la réalité économique elle suivait pas. Il y a des moments où la réalité économique voulait dire aussi s'asseoir sur certaines convictions, et engager et tout, et ça m'allait pas non plus. Donc après, après par contre, ce qui est chouette pour moi, c'est que j'ai fait le choix d'une petite structure, d'être légère. Et ça veut dire que si j'ai envie de changer, j'emmène pas toute une équipe. Je fatigue pas non plus.
Oui, t'es très flexible.
Je suis très légère et flexible. Ouais, ouais. Ça veut pas dire que je bosse tout le temps toute seule. J'embauche des gens à la presta quand j'ai des prestas. Je cherche toujours à rencontrer aussi des gens qui vont me nourrir et que je vais nourrir au sens rencontre, quoi, vraiment rencontre. Donc en fait, au final, moi, c'est un modèle qui me va bien. Voilà, c'est vrai que ça va bien comme ça.
Et tu prends toujours du plaisir à réaliser ces fameux petits biscuits?
Non, franchement, je devrais dire oui d'un point de vue business, mais en fait, en vrai, non, pas du tout. Non, j'en peux plus de ces petits biscuits, ouais. Mais c'est pas grave, hein, ça reste aussi peut-être un truc qui va devoir s'arrêter. Voilà, c'est bien aussi, je pense, de passer à autre chose parfois.
Bon, j'ai une petite tradition, c'est mon questionnaire aller-retour.
Ouais.
Ton âge?
36.
Ton plat signature.
Il change en fonction des saisons. J'ai beaucoup fait les bouillons et les kitchari l'hiver, et là j'arrive sur des pestos et des salades composées ultra riches avec des mesclins de taré qui mélangent plantes sauvages, fans, et voilà.
Ton plat préféré ?
Ah là là, il n'est pas très naturopathique, mais c'est les tomates farcies de ma grand-mère française normande, voilà. Que j'ai pas mangé depuis très longtemps, forcément, mais que j'adore.
Le chef, pâtissier, restaurateur que tu admires le plus ?
Oula, bah, y en a plein en fait. Comme je suis pas dans.
T'as
la
le droit
culte,
d'en donner plusieurs.
Alors tu m'as dit le chef là.
Chef ou pâtissier ou enfin personnalité culinaire que t'admires le plus ?
Non, bah non, y en a tellement plein. Et puis. Oh, c'est difficile cette question, je trouve. Ouais. Non, c'est difficile, ouais.
Bon,
ouais.
Bonus.
Ouais.
Ton ingrédient préféré ?
J'ai beaucoup joué avec le psyllium. Justement, des petits pains minutes là, qui avaient vraiment marché pendant le confinement.
C'est ce truc qui gonfle. Hein.
Ouais, tout à fait. C'est un mucilage. Où plein de gens m'ont dit « Oh,
c'est
mon
quoi,
médecin
ce truc ?
M'avait conseillé ça pour la constipation. Je l'ai utilisé une fois. J'ai jamais su quoi en faire. » Et en fait,
ça se cuisine.
Ouais. Donc là, j'ai beaucoup utilisé ça. Et en ce moment... J'ai travaillé avec plein de plantes qui me fascinent.
Et ton ingrédient détesté ?
Bah, le sucre blanc. Mmh. Ouais, vraiment. Ouais.
Ton ustensile fétiche ?
La microplane a été longtemps... Je suis désolée, c'est celui qu'on ressort à chaque fois.
Non, mais j'adore aussi. Je comprends.
Ouais. Et par contre, là, en ce moment, j'ai remplacé la microplane par l'extracteur de jus de légumes. Qui forcément, pendant longtemps, m'a servi à faire que des jus de légumes et qui maintenant me permet de gagner un temps, mais monstre, dans les préparations. En ce moment, je suis en train de faire des lemon curd où en fait, je mets donc des citrons qui sont de mon traité, forcément, tout entier dans l'extracteur.
Dans le truc,
et ça me sort à la fois le jus, mais aussi le côté huile essentielle du citron. En fait, je me dis, mais c'est un outil de fou, quoi. J'adore.
Une seconde vie pour l'extracteur.
Ouais. Et je crois que c'est... Alors, c'est Déborah de la librairie gourmande qui m'en avait parlé, notamment sur quand je faisais des confitures de cynorhodon. Elle m'avait dit « Ah, mais tu t'emmerdes pas, tu mets tout dans l'extracteur. » J'étais genre « Mais oui, mais c'est tellement évident !» Et en fait, c'était vrai que c'était génial.
Cynorhodon, c'est le gras de cul.
C'est ça.
Ouais. Ton dernier meilleur repas ?
Oula, le dernier meilleur repas ? C'est celui que j'ai fait il y a 2 jours.
Tu vois, il est pas si loin.
Ouais, je suis en train de me dire. C'est celui que j'ai fait il y a 2 jours avec Manon Fleury, Céline Pham, Camille, Sugio. Et on est allé chez un maraîcher avec qui travaille Sugio depuis longtemps. C'est Erwan, donc maraîcher en bio installé en Île-de-France. C'était très intéressant, justement. De discuter aussi sur toute cette difficulté aussi de production. Quand on veut bien faire les choses, c'est pas simple, c'est un vrai engagement. Donc c'était vraiment une super journée, voilà. Et un moment hors de Paris où les masques n'étaient pas omniprésents, ça faisait du bien aussi.
Donc, voilà. En plus il faisait beau.
Et en plus il faisait beau.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
Oula, je sais pas. Ouais. Attends, je réfléchis. J'aurais dû réfléchir à ça en amont. Le meilleur compliment qu'on m'ait fait, je sais plus, non.
Et la pire critique ?
La pire critique, même, je crois que, non, régulièrement je fais des expérimentations qui marchent pas non plus. Je veux dire, il faut que je le dise aussi, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire... quand on a ce champ des possibles d'expérimentation, y a plein de fois où ça marche pas, d'accord ? Et ma famille proche, derrière vraiment les enfants, en fait, ils en ont marre. Donc,
Oh non, t'as encore raté.
Pas raté, mais oui, du coup, ils deviennent un peu méfiants. Ils me demandent toujours, mais il y a quoi dedans et tout. Et c'est vrai que récemment, on m'a dit, tu veux pas nous faire juste un gâteau yaourt, tu vois.
Avec du sucre simple, blanc.
Voilà, Mamie Nova, sucre blanc. Arrête tes tests. Voilà, ça, c'est quand vraiment, je pense que... En fait, comme je jette pas, tout ce qui est fait, y compris ce qui est raté, je le ramène à la maison. Et donc, bah, en fait, les pauvres, après, ils doivent...
ils essuient un peu les plâtres.
Voilà, c'est ça. Bon, il y a des trucs qui sont super réussis, mais il y a beaucoup de loupés aussi, quand même. Quand même.
Bon, l'aller-retour est terminé. Que représente l'alimentation dans ta vie ? Enfin, l'alimentation, la cuisine
Bah, ça a une grande place. Parce que ben déjà mon compagnon est aussi dans la restauration, donc forcément on en discute beaucoup. Et puis après effectivement j'aime cuisiner beaucoup, donc à la maison ça a une grande place, au quotidien forcément ça a une grande place aussi. Et c'est vrai que ben, des fois ça me fatigue aussi quoi. Voilà.
T'es contente d'aller
me mettre les pieds
large,
sous la table. Ouais. Et d'ailleurs les restaurants manquent terriblement en ce moment pour ça. Le fait de pouvoir aussi goûter la cuisine des autres, vivre l'expérience du restaurant chez les autres, c'est difficile ça. Ouais.
C'était très bizarre je trouve, surtout le premier confinement. Aujourd'hui on peut quand même commander plus facilement. Mais je me souviens la première fois que j'ai mangé la cuisine de quelqu'un d'autre.
Beaucoup d'émotions.
Finalement après 2 mois et demi,
ouais.
Ce qui n'était pas arrivé depuis... jamais quasiment, tu vois, enfin c'est très bizarre,
ouais,
tu vois, parce que
ouais,
je sais
ouais.
pas, tu t'habitues aussi à ton
ah oui,
propre
moi
façon de cuisiner,
moi j'en pouvais plus de ma bouffe, hein, c'est clair,
et...
ouais, non mais moi je c'est clair,
tu vois, t'as un truc
c'est ce qui m'a le plus manqué je pense aussi, ouais, la cuisine des autres pendant le premier confinement. C'est vrai.
Tu parles beaucoup de tes deux grand-mères, enfin t'en as pas beaucoup parlé là, si t'en as un peu parlé.
Oui, c'est
mais
vrai,
enfin,
j'en ai beaucoup
t'en
parlé.
T'en parles beaucoup.
Et j'en parle moins maintenant, ouais, ouais. Parce que ça peut sembler être un peu une récupération comme ça pour du storytelling, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment joué un énorme rôle. Maintenant c'est vrai qu'il y a d'autres choses, comme je le disais, il y a aussi la famille du côté de mon compagnon, qui m'a beaucoup aidée à affiner aussi une forme de réflexion sur tout ça. Il y a mes enfants qui me challengent aussi sur les goûts. Il y a aussi tous les gens qui m'ont formée, en fait, c'est-à-dire les formateurs en naturopathie, les gens chez qui j'ai fait des stages en pâtisserie, des rencontres avec des chefs. Donc non, franchement, l'influence, elle est très globale. Elle est partout, tous les jours, en fait.
C'est important d'avoir des modèles comme ça, forts.
Oui, parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de qui est, entre guillemets, j'admire ou mentor. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc, il faudrait presque un peu en sortir le côté culte de la personne. Plutôt, je trouve, moi je m'attache vraiment plutôt à des écosystèmes de gens qui, je vois, résonnent un peu ou ont une sensibilité commune et c'est ça qui me nourrit, quoi. Par exemple, bah voilà, il y a 2 jours, le fait d'être avec... plusieurs chefs différents qui finalement se rendent pas compte à quel point peut-être il y a vraiment un tronc commun, quoi, de sensibilité. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui, je pense, plus que avoir un modèle.
Et à Paris, t'arrives, on avait cette petite discussion campagne/Paris avant,
ouais,
de commencer à enregistrer.
Ouais,
est-ce que t'arrives à te connecter à la nature, au vivant,
ouais,
en
c'est
étant
essentiel.
Ici
ouais, parce qu'après, du coup, le discours est complètement dénué de substance et veut pas dire grand-chose. De toute façon, pour moi, cette fameuse connexion avec la nature, elle passe par le corps. Hein, elle est purement sensorielle. Et d'ailleurs, ça se sent, quoi. Là, il y a 2 jours d'être partie, même serait-ce que sur une journée, faire l'aller-retour dans un endroit hors de Paris, auprès d'un maraîcher qui est au contact de ses légumes tous les jours, l'aider à couper 3-4 choux, ça suffit déjà à créer une détente, un truc. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de jouer avec cet équilibre-là, quoi. Donc voilà, c'est pas évident à Paris, ça c'est vrai. Ouais.
Faut saisir les opportunités.
Ouais.
Comment tu te présentes aujourd'hui ?
Comment je me présente ?
Oh ouais.
Bon, comme quelqu'un d'un peu perdu, mais qui a des bonnes pistes sur l'avenir.
Donc
non,
tu te présentes comme pâtissière ?
Ah, sur cette appellation ?
Oh ouais, sur cette appellation. J'aime bien demander parce que je trouve que c'est assez profond finalement.
Ouais, la
façon
dont on se présente.
Ouais. Dont on se considère aussi. C'est lié.
Franchement, le tronc commun, ça reste la pâtisserie, mais ça s'ouvre vers aussi plein d'autres champs. Donc, je suis pâtissière naturopathe. Voilà, jusqu'à ce que ça évolue vers peut-être naturopathe pâtissière, je sais pas.
Non mais tu vois, c'est assez révélateur. Enfin, ouais, c'est assez révélateur du moment aussi. Hein,
ouais,
mais
tout à fait.
C'est marrant, des fois on se présente pas pareil aussi en fonction de, des personnes qu'on a en face. Enfin bon, voilà.
C'est, tout à fait, c'est, et c'est vrai que bah, tu vois, les, notamment la naturopathie, j'aurais pu accompagner aussi des gens dans la santé, et je l'ai pas fait. Et ça, c'est quelque chose que, pour une raison qui m'échappe en ce moment, ça revient. Je me retrouve à finalement refaire un peu des consultations, des bilans, et la naturopathie est en train de reprendre une place presque plus importante que la pâtisserie, en temps de Covid, quoi.
Donc, ouais, voilà. c'est des périodes, et t'avais peut-être aussi envie, sans doute envie de passer par la gourmandise de la pâtisserie
tout à fait.
À une époque...
Bien sûr.
C'est quoi, enfin, je suppose que ça devait être aussi important, ce côté nourriture et...
Bah,
enfin...
Les deux sont importants, c'est-à-dire que ça fait aussi partie des discussions que j'ai souvent en ce moment, c'est comment tu fais un produit ou comment tu fais une cuisine ou une pâtisserie qui soit en raccord avec ce que tu peux raconter, qui soit vraiment pas délétère pour la santé, qui amène du plaisir, qui amène de la gourmandise. Que ce soit pas juste une espèce de réflexion intellectuelle parachutée comme ça, que ce soit vraiment juste quoi aussi quoi.
Il y a des gens qui peuvent, mais c'est vrai que moi je peux pas manger un truc trop intellectualisé et finalement qui est
ça se passe pas dans le corps.
Ouais, enfin ouais, qui te procure pas d'émotion, tu vois, en tout cas pas d'émotion gustative. Ouais. Une émotion intellectuelle, mais bon.
Pour moi, la difficulté, elle est là aussi. C'est le fait de raconter une histoire, mais que ça se retrouve aussi dans le produit, dans l'assiette aussi, quoi.
Tout à fait.
Et ouais, c'est important.
C'est quoi ta plus belle réussite? Celle dont tu es la plus fière?
Oh, c'est difficile, cette question.
J'aime bien poser des questions.
Bah ouais.
C'est qui ton chef préféré?
Ouais, c'est quoi ça? Ma plus belle réussite, j'ai pas vraiment une réussite, je sais pas. Non, j'arrive pas à répondre à ça, je suis désolée, Julie.
C'est pas grave.
Ouais.
Ces cours en ligne, t'avais envie de transmettre, de reprendre un peu le contrôle, si j'ai envie de dire là-dessus. Enfin, tu vois,
Non, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à transmettre d'un point de vue. Ça m'intéressait que les chefs transmettent à la fois leurs tips techniques et en même temps que moi je puisse donner des clés un peu de santé et puis que à nous en binôme on puisse à chaque fois amener ça quoi.
Mais d'ailleurs,
et d'être vraiment dans la générosité quoi, c'est-à-dire dans une approche pédagogique, pas justement encore culte de la personne égotique et compagnie quoi.
Mais c'est ça qui plaît aussi, je pense.
Ouais.
Enfin, justement, de ce partage très fort. Et
oui, oui.
Enfin, j'ai l'impression que ça a participé aussi à l'engouement pour les cours. Il y avait combien de personnes à chaque fois?
Il y avait pas mal de monde, ça pouvait varier. Il y avait pas mal de monde, mais au début, ça marchait très fort. Après, un peu moins. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai pas continué. Voilà.
Et le service après-vente aussi.
Oui, de beaucoup répondre aux questions. C'était quelque chose.
Ça prend du temps.
Ouais, ça prend du temps.
Bon, on arrive à la fin. J'ai une autre tradition, c'est de demander une petite recette. Est-ce que tu as une recette à nous donner si on veut cuisiner comme toi à la maison? Salé ou sucré?
Moi, j'aime vraiment bien mes petits pains au psyllium. Là, je conseille à tout le monde de se lancer. La recette est sur mon Instagram.
Okay.
Il faut remonter à mai l'année dernière, mais
de
vraiment...
mémoire,
en gros, c'est une logique de matière sèche, matière humide, avec le fameux mucilage. Donc, c'est vraiment une farine, donc farine de riz, farine de sarrasin, une graine de tournesol ou courge ou autre. Une céréale type avoine, sarrasin, pareil, mélangée avec donc du psyllium, graines de chia ou lin, donc vraiment un mucilage, sel, un petit peu d'huile. On ramène la même quantité des matières sèches en eau et en fait ça fait une pâte qu'on n'a même pas besoin de pétrir ou de laisser fermenter. On moule des petites boules, on les fait cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et on a des petits pains, pour le coup, sans gluten, si on veut les faire sans gluten, bourrés de mucilage qui régulent la flore intestinale, qui font un bon nettoyage au niveau des intestins. Donc voilà, je conseille cette petite recette.
Et qui sont bons.
Ouais, et qui en plus sont bons, et qui en plus, mes enfants les aiment bien. Donc ça, pour moi, c'est gagné.
Merci.
Bah, merci à toi. Merci à toi, Julie.
Vous venez d'écouter Jennifer R. Smith, créatrice de Tookies, épisode 14 de la saison 4. Pour commander ses biscuits et suivre son actualité, rendez-vous sur son site tookies.fr et sur Instagram tookies.gambetta. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.